Amis pèlerins, bonjour! La colonne partira cette année avec vous ou peut-être sans vous. Mais l'appel, lui, reste toujours le même. Marchez vers le Christ roi. Que vous soyez sur le bivouac, au bureau ou dans votre salon, ces 9 épisodes sont là pour vous faire avancer, pas à pas, vers le cœur du pèlerinage, le règne du Christ, sur la terre comme au ciel. Alors, prenons la route.
Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette toute première émission du podcast de L'Homme Nouveau, réalisé en partenariat avec Notre-Dame de Chrétienté. Pour cette série, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Isabelle Pio, directrice de la formation pour le pèlerinage. Bonjour Isabelle.
Bonjour Maïtena.
Le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté a choisi cette année pour thème « Pour qu'il règne sur la terre comme au ciel ». Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Alors nous avons choisi ce thème pour fêter les 100 ans de la publication de l'encyclique Quas Primas par Pie XI en 1925. Et puis aussi parce que le thème du règne social du Christ, de la royauté sociale du Christ, est un thème qui est parfois peu enseigné, parfois même peu cru. Et il nous paraissait important d'insister dessus, d'autant que c'est un des piliers de notre pèlerinage. Les trois piliers sont tradition, chrétienté et mission. Et nous croyons que les laïcs ont un rôle à jouer dans la société, pour christianiser la société dans tout son ensemble, que ce soit la famille, l'école, les institutions, la nation. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons choisi d'insister sur ce thème.
Et vous, Isabelle, quel est plus précisément votre rôle au sein de l'association ?
Je suis responsable de la formation. Donc ça recouvre à la fois la formation des cadres, des chefs de chapitre, et également ce qu'on fait par ce podcast, la formation de l'ensemble des pèlerins.
Cette année marque donc le centenaire de l'encyclique Quas Primas, promulguée en 1925 par Pie XI et instituant la fête du Christ roi. Dans cette série de podcasts, nous allons explorer quelques facettes de cette grande proclamation du règne social du Christ, en donnant la parole au cadre de Notre-Dame de Chrétienté. Mais pour inaugurer cette série, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Bernard. Bonjour monsieur.
Bonjour et merci de votre invitation. Je suis très 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 flatté.
Vous êtes historien du droit et spécialiste de la pensée politique et avec vous nous allons revenir aujourd'hui sur le contexte dans lequel a été publiée cette encyclique. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Pie XI a jugé nécessaire de publier Quas Primas en 1925 ?
Je pense que vous avez parfaitement raison. Il faut évidemment contextualiser la publication de ce texte. 1925, je ne l'apprendrai à personne, c'est entre les deux guerres mondiales. Naturellement, en 1925, on ne savait pas qu'il y aurait la deuxième guerre mondiale, mais la première avait déjà eu lieu, ça avait été un immense carnage. Et puis, il y avait le développement de régimes politiques qui devaient s'avérer être totalitaires. Face à ces régimes, eh bien, il y avait des États qui avaient un régime politique plus libéral, mais dans tous les cas, que ce soit le collectivisme d'un côté ou le libéralisme de l'autre, il y avait une idéologie matérialiste sous-jacente qui, naturellement, ne pouvait pas satisfaire le souverain pontife. Et donc, c'est face à cette nécessité rappeler aux hommes leur responsabilité vis-à-vis de leurs prochains, de rappeler aux tenants du pouvoir politique qu'ils avaient des responsabilités non seulement quant au bien-vivre, mais également quant à l'avenir de l'âme de leurs sujets ou de leurs citoyens, que le pape a publié cette encyclique.
Mais alors pourquoi est-ce que cette doctrine du Christ roi n'est explicitée dans une encyclique qu'au XXe siècle ? Pourquoi avoir tant attendu ?
D'abord, il est important de comprendre que en termes de doctrine, il n'y a pas d'évolution. Il y a un principe de tradition. Ce n'est pas Notre-Dame de Chrétienté que je vais l'apprendre. Bon, mais c'est important évidemment de le rappeler. Autrement dit, en fonction des circonstances, il est nécessaire d'expliciter certaines choses parce qu'elles apparaissent plus nécessaires dans des circonstances particulières, mais pour autant, c'est évidemment quelque chose qui avait toujours été proclamé. La divinité et l'humanité en même temps de Jésus-Christ, la Sainte Trinité, le fait que Dieu, et donc évidemment le Christ, est créateur du monde et que donc il est le roi du monde, ça avait toujours été naturellement promu par la doctrine catholique. Mais dans la mesure où, à partir... pour dire les choses rapidement, du XVIIIe siècle, où commence à se développer le subjectivisme philosophique, à partir du moment où les États ont prétendu, non pas maintenir la distinction des domaines que le christianisme promeut, mais affirmer une séparation de l'Église et de l'État, c'est le cas tout particulièrement évidemment en France, eh bien il est certain que le pape a jugé nécessaire de rappeler que une collectivité, une personne morale ou une personne collective, eh bien, a une identité religieuse, que la religion ne concerne pas que l'individu dans son fort intérieur, mais qu'elle concerne également le lien social. Et donc, eu égard à la situation du développement du matérialisme, du subjectivisme, du progressisme, qui avait commencé naturellement à être dénoncé par d'autres papes antérieurement, eh bien là, le pape XI a jugé nécessaire de réaffirmer plutôt la royauté sociale de Jésus-Christ, en proclamant donc et en instituant une fête liturgique pour bien l'installer dans le paysage social.
Merci. Mais pourquoi l'institution d'une fête liturgique a-t-elle été le moyen choisi par Pie XI pour affirmer la royauté du Christ ?
Parce que le pape est le vicaire du Christ, et qu'il est le successeur de Saint-Pierre, et que sa fonction est une fonction dans l'ordre spirituel avant tout, même si par ailleurs l'Église possède des moyens matériels pour agir, et notamment pendant des siècles il y a eu les états pontificaux, très bien, mais sa fonction essentielle c'est évidemment une fonction dans l'ordre religieux, et donc il intervient pleinement et légitimement dans ce qui est de sa compétence. Par ailleurs, il invite dans ce texte les chrétiens à agir librement, conformément à ce que Dieu leur propose, pour essayer d'installer dans la société une atmosphère, des relations sociales qui fassent régner le Christ. Mais il ne prétend évidemment pas se substituer aux États. Il respecte le principe de la distinction évangélique des domaines, hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui revient à Dieu, et que donc par conséquent c'est dans son domaine de compétence qu'il intervient, même si par ailleurs la doctrine sociale montre que la religion n'est pas quelque chose qui est intérieur, uniquement intérieur et uniquement individuel, mais également extérieur et collectif.
Alors vous dites que Quas Primas réaffirme ce qui a déjà été enseigné. En quoi est-ce que cette encyclique s'inscrit dans la continuité des encycliques précédentes ? Je pense notamment à Cantacura de Pie IX en 1964 et Immortale Dei de Léon XIII.
En 1885, vous avez raison. Pie IX évidemment est naturellement connu pour avoir listé tout un ensemble d'erreurs modernistes, et parmi ces erreurs, il y a évidemment la séparation de l'Église et de l'État, le fait que l'État pourrait se passer de la religion, ou même plus précisément que l'État pourrait prétendre reléguer la religion dans l'ordre privé et exercer un monopole sur l'ordre public. C'est ce qui sera d'ailleurs proclamé et mis en œuvre par la loi de 1905 en France, de décembre 1905, qui sera immédiatement condamnée par Saint Pie X, par Vehementernos, l'encyclique Vehementernos, en janvier, si je ne m'abuse, 1906. Donc, séparation de l'Église et de l'État, qui est reprise, on le sait bien, par Léon XIII dans Immortale Dei. Autrement dit, ils mettent le doigt sur ce que nous avons déjà évoqué à l'instant, à savoir la nécessaire articulation du spirituel et du temporel. Le fait que dans le christianisme, le pouvoir politique est inscrit dans l'ordre des choses, il est quelque chose de nécessaire. Il ne s'agit pas, sous prétexte que le spirituel a une finalité supérieure au temporel, hein, le salut des âmes c'est évidemment plus important et plus grave que simplement le bien vivre, mais ce n'est pas sous prétexte que le spirituel a une finalité supérieure que pour autant eh bien, le politique doit être absorbé et d'une certaine manière nié par le religieux et la morale. Pour autant, s'il y a donc cette hiérarchie, ça signifie qu'il ne peut pas y avoir un monopole. Ça, c'est la prétention laïciste. Il ne peut pas y avoir un monopole du temporel sur l'espace public. Et donc, il me semble que, alors, je ne réduis naturellement pas tous ces textes à cet aspect-là, mais il me semble que c'est un point essentiel. Ces différents textes rappellent qu'il est nécessaire que la puissance temporelle laisse dans l'ordre public, dans l'ordre public, eh bien, une place à la religion, et par ailleurs, de l'autre côté, l'Église, elle, ne prétend pas que la royauté sociale de Jésus-Christ, eh bien, soit la justification d'une théocratie, même pontificale, et d'un système politique qui s'appuierait sur ce qu'on appelle communément l'augustinisme politique, donc l'absorption du politique pardon, par le religieux. Voilà, j'espère avoir été clair. Très clair, oui.
Mais alors, si je vous suis bien, c'est une doctrine qui a toujours été crue, avant même d'avoir été explicitée. C'est une doctrine qui avait déjà été annoncée par les encycliques dont nous venons de parler. Alors, comment expliquer que cette encyclique, Quas Primas, n'ait pas forcément été bien reçu par certains catholiques en France qu'on pourrait appeler modérés?
Alors, c'est une question délicate, mais qui tient, encore une fois, là, au rapport du politique et du religieux. Vous savez bien que Léon XIII, en 1892, a proclamé ce qu'on a appelé le ralliement. Bon, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est en aucun cas un ralliement au modernisme, qu'il a lui-même condamné, que Pie IX avait condamné avant lui, et que d'autres après lui, évidemment Saint Pie X, mais aussi Pie XI, lorsqu'il condamne par exemple le nazisme dans Mit Brennen der Sorge, aucun de ces papes, naturellement, n'a promu un ralliement à la modernité. Bon, ce que le pape Léon XIII a dit, c'est que les chrétiens ne doivent pas, je vais le dire de manière un peu familière, et puis on approfondira un peu après si vous le désirez, le chrétien ne doit pas faire couler le sang pour imposer un régime politique. Ce qui compte, c'est qu'un régime, eh bien, réalise le bien commun. Et c'est vrai que dans doctrine thomiste classique, tout régime politique, quel qu'il soit, que ce soit la monarchie, que ce soit l'aristocratie, que ce soit la politéia, eh bien, tout régime politique est susceptible de permettre la réalisation du bien commun, et c'est ce qui fait véritablement la légitimité politique d'un régime. Donc il ne faut pas rendre le régime politique ou prendre le régime politique comme un fétiche. On peut avoir une préférence, et on voit bien d'ailleurs que saint Thomas d'Aquin, comme moi, ou moi comme saint Thomas d'Aquin, a plutôt une petite préférence pour le régime politique monarchique, pas dans n'importe quelle circonstance, évidemment pas dans une petite commune, pas dans un canton suisse, mais dans un état relativement large. On peut évidemment penser qu'un régime de ce type est préférable à d'autres, mais pour autant, ce n'est pas un fétiche, ce n'est pas une idole. Ce qui fait que le régime politique est légitime, c'est qu'il va réaliser, qu'il va viser la réalisation du bien commun. Donc, ce que Léon XIII dit, c'est que ce qui compte avant tout, c'est justement cette réalisation du bien commun. Les institutions politiques sont subalternes, sont secondaires. Le problème, c'est que avec le ralliement, certaines personnes en ont conclu que puisqu'il n'était plus forcément nécessaire ou parce que ce n'était pas prioritaire de se battre sur le régime politique, on pouvait accepter, je vais dire rapidement, la République et la démocratie et par conséquent, eh bien, adhérer à l'idéologie sous-jacente de ces régimes républicain, qui était, eh bien, le modernisme. Et c'est là où, évidemment, il y a eu une ambiguïté. C'est là, d'une certaine manière, qu'il y a eu une scission au sein du monde catholique entre ceux qu'on pourrait qualifier de catholiques sociaux, ils existent toujours encore, hein, je crois que je suis en présence de personnes qui sont dans cette mouvance, je dirais, politique et doctrinale-là, et puis ceux que l'on pourrait qualifier de démocrates chrétiens, c'est-à-dire ceux qui pensent que, eh bien, on peut christianiser de l'intérieur un régime politique quitte à adhérer, ou du moins quitte à ne pas dénoncer dans ce régime, eh bien, ce qui serait contraire à la doctrine chrétienne. Et c'est là où, évidemment, que le bât blesse. Parce que la conséquence, c'est qu'ils ont pris la proclamation de la royauté sociale de Jésus-Christ comme étant, finalement, un retour en arrière par rapport au ralliement. Et je crois que c'est une erreur, c'est une incompréhension du ralliement, même si je dois reconnaître que certaines personnes pouvaient évidemment avoir quelques doutes sur l'opportunité du ralliement en 1892, eu égard à la politique qui était menée en France par la Troisième République. Et on sait bien que ça a abouti, ça avait déjà commencé par des lois sur... l'université, où l'État prétendait avoir le monopole de la collation des grades universitaires, ce qui, d'une certaine manière, mettait les universités catholiques dans une position de servilité. Et puis ça a continué avec 1901, la spoliation des biens des congrégations, et puis la loi de 1905, qui n'a fait que revenir, dans le fond, à la spoliation des biens nationaux de 1789. Donc c'est vrai qu'on peut discuter de l'opportunité diplomatique et politique du ralliement. En revanche, il n'y a aucun doute sur ce que ça signifie. Le régime est un moyen, ce qui compte c'est la finalité, la réalisation du bien commun. Et donc un certain nombre de chrétiens, devenus démocrates chrétiens, eh bien, eux ont confondu le fait de ne pas se battre avant tout et prioritairement pour le régime politique avec le fait d'adhérer, dans le fond, à la modernité sous-jacente à la République contemporaine.
Et donc la publication de Quas Primas, est-ce que ça a suscité un renouveau dans les milieux catholiques ?
Alors, oui, absolument, et en même temps, c'est là où, de nouveau, je dirais, des choix qui sont peut-être un peu plus politiques ou diplomatiques ont un peu parasité les choses. Vous n'ignorez pas que quelques mois après Quas Primas, en décembre 1925, il y a eu la condamnation de l'Action française. Et il est bien évident que c'est quand même dans ce milieu-là, royaliste, catholique, que c'était, par exemple en 1906, lors des inventaires, principalement recrutés ceux qui s'opposaient au viol des églises et des tabernacles, et que donc par conséquent, en France, il y a eu incontestablement une incompréhension, parce que si naturellement il y avait une ambiguïté sur certains textes de Charles Maurras, en revanche, très sincèrement, je pense qu'il n'y avait pas du tout d'ambiguïté quant à l'adhésion des militants d'Action française. C'est un légitimiste qui vous le dit, donc je peux parfaitement le dire de manière parfaitement décontractée. Pardon. C'est bien sûr parmi les militants d'Action française que se trouvaient ceux qui étaient les plus actifs pour réaliser le programme de Quas Primas, c'est-à-dire... pousser le pouvoir politique à reconnaître la place de la religion dans l'ordre public et réaliser dans le corps social la charité, c'est-à-dire agir librement conformément à ce que Dieu propose. Donc c'est vrai que en France, les effets bénéfiques de Quas Primas ont sans doute été limité à cause de cette condamnation qui a duré, donc vous le savez, de 1926 à 1939. Ce dont il faut se souvenir, c'est que la levée de l'excommunication qui avait été prononcée en 1926 a été faite en 1939 sans qu'il y ait aucune modification du positionnement de l'Action française. Et donc c'est vrai que peut-être que le pape Pie XII, qui avait été secrétaire d'État de son prédécesseur, Pie XI, a fait preuve, disons, d'une clairvoyance politique plus grande que son prédécesseur.
Et donc à quel point est-ce que l'Église elle-même a porté ou abandonné l'enseignement du règne social du Christ après sa publication, la publication de Quas Primas ?
On peut penser que la doctrine chrétienne est naturellement toujours la même, mais que les priorités pastorales, et donc inférieures, évidemment, la question pastorale est inférieure à la question doctrinale, ont conduit sans doute à un émoussement de l'affirmation de la royauté sociale de Jésus-Christ. C'est le cas évidemment avec, à partir des années 60, où l'aspect communautaire, je dirais, de l'Église l'a peut-être un peu plus emporté sur l'aspect doctrinal. Et on le voit notamment, évidemment, dans les questions liturgiques, parce que, qui ont leur importance et qui sont directement liées à la question de la royauté de Jésus-Christ, puisque si le Christ est roi de l'univers, c'est parce que, bien sûr, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu est créateur du monde et, par conséquent, Jésus-Christ est roi de l'univers, mais il y a aussi, évidemment, le Christ, vrai homme et vrai Dieu, et eh bien, il a subi la passion, et il est donc roi du monde, aussi parce qu'il est le Rédempteur. Et donc, par conséquent, dans la mesure où il semblerait qu'il y ait, je dirais, dans les évolutions liturgiques, eh bien, une importance peut-être moins grande accordée à la visibilité, je dirais, de la messe comme renouvellement ou plutôt réactualisation non sanglante du sacrifice du Christ, peut-être qu'il y a parmi les fidèles une conscience moins aiguë, moins prononcée de ce que le Christ est roi du monde par la passion qu'il a subie, par la rédemption qu'il a apportée à l'humanité.
Peut-on dire, en fin de compte, que cette encyclique est un appel à la restauration d'une chrétienté politique, ou Pie XI avait-il d'autres objectifs ?
Ah, c'est un appel à la restauration de la chrétienté politique, mais pas parce que l'Église installerait, on l'a dit tout à l'heure, une théocratie, mais parce que, d'une part, les pouvoirs politiques reviendraient, espère-t-il, à une position plus nuancée, c'est-à-dire celle qui ne conduirait pas à l'exclusion de la religion de l'ordre public, et d'autre part, c'est une incitation pour les fidèles à s'investir dans le champ social, à ne pas se contenter finalement de vivre au jour le jour, mais d'être véritablement des promoteurs de la foi et de donner l'exemple, parce que on ne convertit jamais aussi bien que parce que on rend palpable, je dirais, à la fois le bien commun d'un côté et de l'autre la présence de la Providence dans l'histoire des hommes. Donc c'est une chrétienté politique dans le sens où ce n'est pas un régime, mais c'est où les régimes et les fidèles seraient eh bien, des témoins de l'Évangile.
Et alors pour conclure, vous êtes professeur, vous êtes aussi pèlerin de la femme de chrétienté. Je pense aux plus jeunes pèlerins, quelle est l'importance de méditer ce thème pour qu'il règne cette année en 2025 ?
C'est très difficile comme question, mais je vais essayer d'y répondre à la fois intellectuellement et avec une part de sentimentalité, mais pas de subjectivité. C'est-à-dire que il me semble que la royauté de Jésus-Christ, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas une théorie. Ça n'est pas quelque chose qui est abstrait. C'est le Christ, ça n'est pas une idée. C'est Dieu qui s'incarne dans un homme. Le Christ, il est vrai homme et vrai Dieu. Et donc, bien entendu, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, et donc nous n'arrivons pas à chaque instant à être dans un état de grâce parfait. Mais pour autant, la royauté de Jésus-Christ, c'est un appel à essayer d'être le plus possible en conformité avec l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez que le livre qui, après la Bible, a été le plus imprimé dans toute l'histoire du monde, c'est un ouvrage fait par un moine, sans doute allemand, tant pis, du début du 15e siècle, Campis, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et donc voilà, réfléchir ou travailler sur la royauté sociale de Jésus-Christ, c'est que chaque personne doit trouver sa place, qu'il y ait une juste répartition des choses. Il ne s'agit pas de vouloir être plus que ce que l'on est, mais il s'agit d'essayer d'être eh bien, ce que l'on est voué à être, c'est-à-dire eh bien, des hommes vivants, agissant à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce qui me permet de rappeler que, et ça me paraît relativement important, la royauté de Jésus-Christ, elle est universelle. Elle couvre l'ensemble du monde, mais elle ne signifie pas pour autant qu'il doit y avoir un nivellement des sociétés humaines. C'est-à-dire que la patrie terrestre est un vecteur pour la patrie céleste. C'est hic et nunc, c'est ici et maintenant, c'est dans la relation avec le prochain que, eh bien, on doit essayer de s'investir et d'être et de témoigner, je dirais, dans notre foi en Jésus-Christ. Et donc, il ne s'agit pas de chercher à établir des idéalismes abstraits, mais concrètement, dans le corps social ou dans les corps sociaux dans lesquels nous sommes, la famille, l'entreprise, la province, eh bien, essayer de contribuer le plus possible à la réalisation d'abord du bien commun temporel et ensuite, enfin d'abord, non pas dans la hiérarchie, mais d'abord, je dirais, dans l'ordre, je dirais, des possibilités et des facilités. Donc d'abord le bien commun, et puis ensuite permettre à tous, soi-même bien sûr, mais on ne se sauve pas tout seul, permettre à tous eh bien, de tendre vers notre finalité dans les cieux.
Merci monsieur pour cette introduction qui nous permet de contextualiser cette encyclique Quas Primas dont nous fêtons le centenaire. Nous avons ainsi mieux compris les raisons qui ont poussé Pie XI à expliciter la doctrine du Christ-Roi, doctrine qui a toujours été crue et enseignée par l'Église, avant de l'étudier plus en profondeur lors de notre prochain épisode.